BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie Cœur de Roy.
Et il est midi sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité économique du jour et un peu de répit sur les marchés financiers. Les places européennes sont dans le vert, y compris le CAC 40. Le pétrole repart très légèrement à la baisse avec un baril de Brent autour des 96 $ quand même. Le marché obligataire, lui, reste en revanche sous tension avec un 10 ans français à 3,67% ce midi et un 10 ans allemand toujours au-delà des 3%. Il faut dire que sur le front diplomatique, les dernières déclarations sont toujours assez contradictoires. Si hier soir Donald Trump a jugé possible que les discussions avec l'Iran aboutissent le week-end prochain, le guide suprême, lui, a fait une déclaration écrite aujourd'hui estimant que les États-Unis et Israël cherchaient, je cite, à diviser la nation iranienne. Il parle également de revers cuisants des ennemis de l'Iran sur le champ de bataille. Des éléments contradictoires également côté libanais. Israël assure ce midi que ses tirs continueront dans le sud du Liban malgré un nouvel accord de cessez-le-feu trouvé la nuit dernière. Enfin, côté entreprise, on en sait un petit peu plus sur ce qui pourrait être la plus grande entrée en bourse de l'histoire qui devrait avoir lieu vendredi prochain à Wall Street, celle de SpaceX. Son patron Elon Musk espère obtenir 75 milliards de dollars avec l'opération. D'après les documents publiés ces dernières heures par le gendarme boursier américain, la valorisation de l'entreprise serait alors de 1 765 milliards de dollars. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO. Marie Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de l'immobilier. Le pro de l'IMO, ces séquences de témoignages de vos métiers, vos anecdotes, vos coups de cœur, vos coups de gueule, pour nous en apprendre davantage sur ce qu'il est aussi possible de faire sur ce marché de l'immobilier aujourd'hui. Focus sur le crédit vendeur. Imaginez que ce soit le vendeur qui vous prête l'argent pour acheter sa maison. Oui, oui, c'est possible, c'est un peu plus complexe que ça, on verra ça dans quelques instants, mais c'est possible. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Aujourd'hui, on va parler SCPI, mais on va le faire avec un angle un peu nouveau. On va se poser la question de savoir si le choc démographique actuel doit, peut réorienter nos stratégies d'investissement. On verra ça dans quelques instants, mais d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Aurélien Denecher, directeur des agences L'Adresse Anjoumène. Bonjour Aurélien.
Bonjour Marie.
Et vous voulez nous parler du crédit vendeur? Moi je trouve ça génial. Racontez-nous un peu, parce que j'ai résumé grossièrement, mais dites-nous un peu en quoi ça consiste ce crédit vendeur.
Très bien fait. Effectivement, en fait, on a des possibilités d'apporter des solutions qui sont des fois un petit peu différenciantes et qui permettent de débloquer des solutions. Vous avez parlé du crédit vendeur. On a cette possibilité dans l'immobilier de pouvoir accéder au crédit vendeur via donc une solution qui s'appelle la vente à terme libre. En fait, on a eu un cas bien présent qui me semblait assez intéressant de le partager avec vous tous. On a eu une maison à vendre en campagne du Maine-et-Loire et on a des propriétaires, c'est une maison qui se destinait beaucoup aux primo-accédants, qui ont bien eu des difficultés à trouver un acheteur solvable pour acheter leur maison et au bout d'un an, ils se retrouvaient donc dans la situation de ne pas réussir à vendre le bien. Donc le propriétaire-vendeur avait plus de 75 ans. Son projet de vie à lui, c'était d'aller vivre avec sa nouvelle conjointe dans une location à l'autre bout du département. Donc il avait déjà, premier constat, pas besoin de l'ensemble de la somme tout de suite. Et pour le coup, étant donné qu'il avait des difficultés à vendre son bien, on lui a proposé cette solution. Alors ni plus ni moins, qu'est-ce que ça représentait pour lui? C'était de mettre en vente son bien avec une mensualité sur 20 ans, et qui permettait finalement à l'acquéreur d'accéder à ce bien sans supporter le coût du crédit et le coût de l'assurance.
En gros, je vous interromps Aurélien, mais en gros, il a fait un PTZ, quoi, c'est ça l'idée?
C'est fou, hein. C'est assez fou. Et pour le coup, eh bien, on a pu trouver des acheteurs et ça a même rendu son bien plus attractif puisque, pour tout vous dire, il avait une idée de valeur de son bien à 160 000 euros. Quand on lui a présenté la solution, il s'est dit, étant donné que je vais faire quand même un petit effort de supporter le fait d'attendre ses rentrées de fonds mensuelles sur cette période de 20 ans, je vais remonter mon prix de 10 000 euros. Il a même mis à la vente sa maison à 170 000 euros. Avantage pour lui, pour le coup, il a vendu sa maison, avantage pour les acquéreurs. Ces acquéreurs qui n'étaient pas solvables, ils sont devenus solvables puisque du coup, bah, dans le calcul du tiers d'endettement, on n'avait plus du coup de crédit et d'assurance. Et la maison s'est vendue très rapidement.
Mais alors attendez, parce que pour le faire court quand même, parce que le vendeur, certes, il a vendu 10 000 euros plus cher, mais enfin quand même, à la fin, il va récupérer, donc je regarde mes petites notes, il a récupéré 30 000 euros versés cash, mais pour le reste, en fait, ça va être des mensualités que vont exactement lui verser les fameux acheteurs. C'est ça l'idée.
Exactement. En fait, finalement, on se retrouve pas très très loin d'une solution viagère, à la seule différence qu'on a donc un bien qui est libre tout de suite, puisque ici on va parler de vente à terme libre, et qu'on a une durée définie. Pour le reste...
Oui, alors quand même, je veux pas être pessimiste pour ce vendeur, je sais qu'on vit de plus en plus tard, mais enfin là, il a 75 ans, il fait un crédit sur 20 ans, si mes calculs sont bons, ça pousse à 95 ans. Ma question, elle est simple, c'est que du coup, est-ce que finalement il s'y retrouve ce monsieur? Parce que il faut aussi, dans la solution viagère, il y a aussi cette idée de financer les vieux jours, etc. Donc là, est-ce qu'il va s'y retrouver? Comment ça se passe au moment de son décès?
Alors, il s'y retrouve complètement, puisque pour le coup, il a retrouvé ses sommes au fur et à mesure. Et au moment de son décès, ça fait partie de sa succession. C'est donc ses héritiers qui vont profiter de ses mensualités.
Et il peut, et par exemple, si les acheteurs voulaient tout verser d'un coup pour X ou Y raison, parce qu'ils ont une grosse rentrée d'argent à un moment, est-ce que c'est possible aussi de sortir de ce système de mensualité?
Là, pour le coup, c'est un accord entre les parties, puisque quand même, il y a une hypothèque qui est montée quand on met cette solution en place par le notaire.
Oui, parce que j'allais dire, il n'y a pas d'assurance, du coup, il n'y a pas d'assurance de prêt.
Pas d'assurance, mais il y a quand même des contraintes. Il y a un cadre qui est bien défini et qui est enregistré à l'acte notarial par le notaire. La première, c'est qu'il y a une hypothèque qui est inscrite sur le bien vendu au nom des vendeurs. Donc, si on veut sortir plus tôt du schéma, pourquoi pas, mais il faut repasser devant son notaire pour lever cette hypothèque. Et également, on a une clause résolutoire qui indique quoi? Qui indique que si à un moment, il y a un versement qui n'est pas effectué, l'hypothèque déjà va prendre son effet. Et la deuxième chose, c'est que la clause résolutoire va faire que le contrat s'annule et que toutes les sommes versées, en plus, sont perdues. Donc ça,
c'est quand même bordé juridiquement. Juste d'un mot, Aurélien, ça aurait pu être un autre montage. Je veux dire, est-ce qu'on peut le faire avec une enveloppe du cash au départ un peu plus élevée que là, où on n'est que, entre guillemets, sur 30 000 euros et tout le reste en mensualité sur 20 ans?
Effectivement. En fait, c'est des jeux de phase communicants. C'est-à-dire que plus vous mettez d'apport à l'origine, plus la mensualité sera faible, inversement. Et pour le coup, on peut complètement organiser sa vente en fonction des besoins de chacun. Et des accords, bien sûr, de chacun. Quand je parle des besoins de chacun, c'est du vendeur et des capacités à financer de l'acheteur.
Eh ben, merci pour ce témoignage, Aurélien. C'est une solution intéressante et je pense qu'elle s'adresse effectivement, vous disiez qu'on n'est pas très loin d'une sorte de solution viagère. Je pense qu'effectivement, les personnes qui commencent à gagner en âge et qui pourraient être un peu pressées de vendre, ça peut les intéresser. Aurélien Denéchère, directeur des agences L'Adresse Anjoumène. Si, comme Aurélien, vous avez des témoignages terrain à nous apporter, n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail, experts de l'IMO@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Et alors, c'était pas du tout anticipé, mais je trouve que le lien, il est parfaitement faisable avec le sujet qu'on va aborder aujourd'hui dans le cadre de notre débat. On parlait de solutions viagères. Comment on va parler de choc démographique avec vous, messieurs? Christian de Carangal, directeur général de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Bonjour.
Bonjour, Marie.
Et également à mes côtés, David Fink, le directeur général de Real. Bonjour.
Bonjour, Marie.
Alors, je le disais, on va parler SCPI parce que c'est l'aboutissement de ce qu'on va se dire. Mais le sujet, au-delà de ça, c'est nos stratégies d'investissement à l'heure de ce choc démographique. On le sait, on l'a vu, là, dans notre produit IMO du jour, il y a de beaucoup plus en plus de seniors qui cherchent parfois à quitter leur maison pour aller ailleurs. Est-ce que ça doit aussi réorienter la manière dont on réfléchit quand on veut investir notre épargne en immobilier? Alors, je sais que c'était quelque chose qu'on voulait aborder en fin d'échange, mais quand même, je vais en parler. C'est-à-dire que cette semaine, on a parlé de Parcoursup, du logement étudiant, etc. Et je disais aux intervenants... Est-ce que franchement, il faut encore investir dans le logement étudiant? On fait plus d'enfants. Est-ce que finalement, le sens de l'histoire, c'est pas d'investir dans l'immobilier de santé, dans résidences seniors, dans les EHPAD? Messieurs, je ne sais pas lequel de vous deux souhaite commencer.
Bon, je vais peut-être faire un petit démarrage et puis après je te laisse la parole. Mais en fait, moi, je voulais dire, d'abord, c'est la démographie, c'est pas une tendance de marché. C'est une certitude globale. qui est factuel. Et donc, ça va entraîner des thèses d'investissement qui vont avoir un lien direct ou indirect avec le vieillissement de la population.
Exactement.
C'est une évidence. Alors, je vais vous donner trois chiffres, et je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais en réalité, le vieillissement de la population, la France va taper le mur, ce qu'on appelle du vieillissement. Et quand je parle de la France, c'est aussi l'Europe. Trois chiffres. Aujourd'hui, en 2050, on va se parler sur... Mais c'est pas loin, 2050, c'est la moins de 25 ans. Hein. En 2050, il y aura 23 millions de personnes qui auront plus de 60 ans. C'est beaucoup, hein. Ça fait 5 millions...
J'en ferai partie, hein. On va pas se mentir.
Ça fait 5 millions de aussi, plus que... En 2021, c'est la première chose. Ouais. Si je prends les plus âgés, les plus de 85 ans, ils vont aujourd'hui représentent à peu près 13% de la population des personnes âgées. En 2050, ils vont représenter 19%, c'est énorme.
Ouais.
Et en 2070, ils vont représenter 22%. Et là, je vais vous le traduire en chiffres sur l'hébergement. Vous parlez des EHPAD, puisqu'on est spécialiste de l'EHPAD, puisqu'en réalité, on a des fonds Pierre Val Santé qui en fait investissent dans ce domaine-là depuis plus de 10 ans. Il faudrait construire 365 000 places d'EHPAD. Donc, c'est beaucoup.
Ouais.
Ça veut dire c'est 3 EHPAD par semaine pendant 25 ans.
Ah,
pour vous donner un ordre d'idée. Parce que il faut toujours un peu frapper les auditeurs.
Bah, mais bien sûr. Sûr. Et on se rend compte aujourd'hui, justement, de la pénurie. Parce que là, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de quoi accueillir les personnes âgées qui cherchent ce type d'établissement.
Non, il n'y en a pas assez. Et encore que, je veux dire, c'est devant nous le problème. Le problème, il n'est pas derrière nous. Je veux dire, le mur, on va le taper.
On va le prendre en pleine tête, oui, bah, vous pouvez le dire, David, clairement. Ça, c'est
Dans 2 ans, hein.
Ouais. Pourquoi dans deux ans?
Parce que globalement, on considère que l'entrée en résidence service senior ou en EHPAD, c'est aux alentours de 82, 83 ans.
D'accord.
Le début du baby boom, c'est 46. Vous rajoutez 82, 83 ans, ça arrive dans 2 ans. Donc, le début de l'arrivée de cette vague démographique de personnes assez âgées, voire très âgées, elle est imminente.
Mais à partir du moment où on se dit ce genre de choses, où on se dit que justement, on est sur un vieillissement de la population, on les a vues, toutes les études sur la dénatalité, sur le fait qu'aujourd'hui on avait plus de cercueils que de berceaux, est-ce que justement, aujourd'hui, il faut se dire, bah, on met le paquet là-dessus parce qu'on a un déficit, 365 000 places d'EHPAD nécessaires d'ici à 2050, on se rend compte de ce mur-là quand même,
oui.
Est-ce que là, il faut se dire, bah, vraiment, il faut investir dans la construction de logements adaptés, de résidences-services spécialisées et d'EHPAD a fortiori en fin de vie?
Alors, moi, en tout cas, je suis persuadé, je pense que David dira la même chose, mais je suis persuadé que c'est une classe d'actifs structurellement en croissance. On en a pour 30 ans. Hein, les baby-boomers, c'est 30 ans. Donc, et en plus, c'est une question de société. Enfin, je veux dire, il faut qu'on trouve des manières de loger nos seniors de manière adaptée, de manière... Voilà, donc il y a des vrais besoins qui, comme l'a dit David, vont croître de manière très très forte dans les 10 années qui viennent.
Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression, alors certes, en volume, on ne construit pas assez, on est tous d'accord là-dessus, mais enfin, il y a un choix quand on... voilà, je ne suis pas encore aux 60 ans, mais je me rappelle, il y a quelques années, quand j'étais petite fille, c'était la maison de retraite ou rien. Aujourd'hui, on a quand même un panel d'offres immobilière à destination des personnes âgées, qui est quand même beaucoup plus large entre justement ces résidences-services, des résidences intergénérationnelles du côté du logement social, et j'espère bientôt du logement privé parce qu'il serait temps, et les fameux EHPAD, les maisons de retraite. Aujourd'hui, on a quand même un portefeuille assez large à destination des seniors ou des personnes qui gagnent en âge.
Alors vous avez raison, parce qu'on ne va pas en EHPAD à 60 ans. Christian l'a dit, c'est plutôt clair. 80, après 80, 80.
Ouais, ouais.
Tout le monde veut rester à domicile. Ça, je vous le dis, tout le monde veut rester à domicile. Et on a créé des classes d'actifs qui vont, en fait, correspondre à une espèce de parcours d'hébergement de la personne âgée.
Ouais.
Il y a le parcours de soins, c'est le parcours d'hébergement. Alors, la première chose, vous restez à domicile. La résidence service senior, c'est plutôt 75 ans. Dès lors que vous avez un des membres de votre famille, un des conjoints qui décède, il souhaite se mettre dans un environnement qui sera plus social, parce qu'il va se retrouver un petit peu seul chez lui. Donc, il va dans une résidence service senior. Mais il n'y a pas de soins. Il faut le savoir.
Il y a
du service.
C'est pour des gens qui sont encore autonomes. Mmh.
Très autonomes. Et après, on peut avoir du co-living pour personnes âgées, donc des petites unités de vie de l'habitat inclusif, dans lequel, en réalité, il peut y avoir...
C'est la coloc des Papy et Mamie, quoi.
Exactement. Ouais. Et l'inclusif, c'est peut-être aussi, et c'est ça, l'ouverture des EHPAD vers aussi autre chose que des personnes âgées. Ouais. C'est de se dire, on est dans un environnement sociétal dans lequel, en réalité, il faut aussi ne pas être exclu. On l'a vu avec le Covid, l'exclusion.
Bien sûr.
Puis après, l'EHPAD, c'est plutôt, j'allais dire, le parcours de fin de vie. Et dans les EHPAD, on aura de plus en plus de gens qui vont être dans des très grandes dépendances et qui, ce sera les deux dernières années de leur
vie. C'est le bout du bout. Mais oui, mais c'est intéressant en fait de dire ça, parce que justement, sur ce côté, on veut rester à domicile le plus longtemps possible. Mais c'est peut-être parce que l'alternative, elle était un peu nulle avant, quoi. C'était ça ou l'EHPAD. Ouais. Et d'où l'intérêt de construire aussi un immobilier adapté à nos évolutions de vie, sans passer justement du domicile dans lequel on a vécu 40-50 ans à un mouroir, parce que ça se transforme comme ça maintenant aujourd'hui.
Alors j'allais vous dire, c'est aussi parce que la longévité
c'est
beaucoup plus important.
Bien sûr.
Aujourd'hui que hier. Donc c'est vrai que les maisons de retraite existaient. Vous partez à la retraite à 65 ans, quelquefois vous mourrez à 70 ans. Bon. Aujourd'hui, vous pouvez vivre 25-30 ans. Après
la retraite. Ouais, bien sûr.
Et donc, bien évidemment, il faut s'adapter. Et puis, c'est pas la même population que l'on a. Ce sont des gens qui ont des besoins de services et ils ont besoin de retrouver ces services aussi dans les établissements.
Mais une fois qu'on dit,
Ce qui est vrai quand même, c'est que les opérateurs doivent réfléchir à des modèles plus adaptés, parce que aujourd'hui, on voit que c'est souvent très cher. Donc il y a une question de bouquet de services, de modulation, de capacité de s'offrir ces résidences services seniors.
Ah bah bien sûr.
Mais en même temps.
Mais quand on voit le prix des EHPAD aussi, c'est quand même stratosphérique. Enfin en Île-de-France, regardez les tarifs. À titre personnel, je les connais bien. C'est quand même incroyable.
Oui.
C'est-à-dire que on ne comprend pas quelle est l'alternative du coup pour une personne très âgée et qui est en dépendance totale. C'est quand même assez dingue. Et c'est pour ça que justement ces solutions un petit peu alternatives commencent à fleurir. Ma question derrière, c'est ok, on a bien compris l'enjeu démographique et se dire il faut construire, il faut mettre le paquet sur ces résidences dédiées aux vieillissants de la population. Mais pour le reste, il y a quand même d'autres segments qui sont intéressants. Est-ce que vous allez me dire, il faut vraiment aller que là, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments? Moi, je regardais dans les éléments de préparation qu'on m'a envoyé à votre sujet, vous vouliez parler du bureau. Et j'ai adoré un truc, parce que comme on parle SCPI, moi, je me souviens d'un temps, oh là là, la SCPI, c'est le bureau. Le bureau, c'est quoi? Le bureau. Et là, vous me dites, bah ouais, on en est revenu avec le Covid, mais en fait, le bureau, il était mort avant le Covid, c'est ça que vous me disiez?
Alors oui, ce qu'on a, c'est une analyse qu'on a fait récemment à l'IEIF, mais qui nous semble essentiel. Quand on voit le volume en Île-de-France, on a plus de 6 millions de mètres carrés disponibles. Et on s'est dit, c'est pas possible que ce soit lié que au télétravail. Donc, on a analysé les choses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que depuis 2008, les générations du baby-boomer partent à la retraite. Elles sont plus nombreuses que les générations qui rentrent sur le marché du travail. Et donc, du coup, vous avez eu une inflexion de la croissance de la population active, et pour être plus précis, des emplois de bureau, parce qu'on les a listés, qui passent de 2 à 3% de croissance par an depuis les années 50 à entre 0,5 et 1% de croissance par an. Donc, ça freine vachement. Et du coup, deux chiffres qui frappent. Entre 2000 et 2007, on a construit 23 mètres carrés par nouvel emploi de bureau.
Ouais.
Entre 2008 et 2019, on a construit 44 mètres carrés par nouvel emploi de bureau.
Alors que moi, j'avais l'impression qu'on était plutôt en train de resserrer. Là, aujourd'hui, on fait le process inverse.
Non, mais maintenant, oui, bien sûr.
44 mètres carrés, un T4 à Paris.
Alors là, je parle du bureau. Hein,
oui,
mais il n'empêche que... Voilà, et donc ça veut dire qu'avant même le Covid... Et effectivement, la montée en puissance du télétravail qui a réduit encore la demande, on était déjà en suroffre. Et cette suroffre, pour nous, notre estimation, c'est qu'elle représente à peu près les deux tiers de l'explication de la suroffre actuelle. Mais l'autre chose qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que quand on regarde les prévisions de l'INSEE, enfin les projections de l'INSEE, à horizon 2050, la croissance démographique de la population active, elle augmente encore un tout petit peu jusqu'en 2040 et après elle commence à baisser doucement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tout cas en Île-de-France, on est probablement à la fin de la tertiarisation.
Ouais.
On l'a accompagné des années 45-50 jusqu'à maintenant. Mais le gâteau est fini. Il va plus croître. Donc ça
veut
dire
sauf si on refait des bébés, mais et ça sera à projection 20, 30,
oui,
40 ans.
Ouais, voilà, ouais. Non, on est d'accord. Mais le problème, c'est que toutes les politiques pour inciter à refaire des bébés, ça marche pas totalement. Et là, on est passé, je vous le rappelle, le dernier pic, c'était 2010, 2,3 enfants, ouais. 2,03 enfants par femme. On est à 1,56, ça veut dire qu'on est rentré dans la norme classique des pays. Voilà. Et donc, globalement, ce qu'on veut dire derrière ça, ça veut pas dire que le bureau est mort. Ça veut dire qu'il va falloir passer d'une économie de l'expansion foncière à une économie encore plus fortement de la restructuration, de la rénovation, de la transformation d'usage. Voilà, il faut que les bureaux... Et du coup, il va y avoir une concurrence encore plus forte entre les territoires. Et donc, du coup, il y a des territoires qui vont s'en sortir. Il y a des territoires qui vont beaucoup plus souffrir. On le voit déjà avec des taux de vacances qui sont stratosphériques à certains endroits. Et donc là, il va falloir envisager de faire autre chose que du bureau.
Alors, on fait quoi ?
On fait de la santé.
Ben oui, mais lui, il prêche pour sa paroisse, forcément, David.
Oui, mais parce que je prêche pour ma paroisse.
Dans ce match bureau je ne sais pas comment le dire, senior autour du senior immobilier pour senior, globalement...
Je pense qu'on fait du logement aussi.
Oui, du logement.
On fait du logement, c'est fondamental. Oui. On n'a pas assez de besoins de logement, ils sont trop chers. Et alors là, pour le coup, les tendances démographiques,
Décohabitation,
etc. Certes, les besoins en logement vont ralentir à horizon 2050, mais ils restent toujours positifs.
Ouais.
Alors par contre, avec une offre qui va devoir être différente, parce qu'il y aura de plus en plus de ménages seuls, ou de ménages à deux personnes, et beaucoup moins de très grandes familles.
Ouais, mais justement, c'est passionnant. Il faut que je retourne sur cette étude qui m'avait vraiment hyper intéressée, sur justement, là, on se pose des questions entre nous, là, sur les évolutions démographiques et leur impact. Mmh. À une certaine échéance, j'aurai acheté suffisamment de SCPI dédiés à la santé, à l'immobilier pour seniors, etc., et qu'on aura construit ce qu'il faut pour les fameux baby-boomers, ils vont lâcher leurs appartements familiaux et ils vont revenir sur le marché.
Oui.
Et donc, quelque part, en fait, il y aura aussi ce moment où est-ce que, effectivement, il ne faut pas se poser la question de savoir si on a vraiment besoin, c'est horrible ce que je vais dire, mes amis promoteurs ne vont pas du tout aimer, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de construire si d'ici 20, 30, 40 ans on va retrouver tous les biens?
Nous on a fait le calcul en gros d'ici 2040 en France on va avoir 11,7 millions de résidences principales qui vont revenir sur le marché liées au décès des baby boomers. Alors il y en a dans des zones détendue, j'ai envie de dire, là c'est dommage, c'est comme ça. Mais il y en a plein dans les zones tendues aussi. Mais il n'y en a pas assez. C'est-à-dire qu'on a fait le calcul pour l'Île-de-France. L'Île-de-France, ça va augmenter de 20% le flux classique d'offres. Donc ça va détendre un peu le marché.
Mais ça ne sera pas suffisant.
Mais c'est pas suffisant.
Donc de toute façon, il va falloir construire davantage. Oui. C'est intéressant, vous parliez de la France. Moi, j'ai envie de vous regarder, du coup, David, et me dire, est-ce que ces problématiques dont on parle, qui ont l'air spécifiques à la France, on les trouve pareilles à l'échelle de l'Europe ?
C'est exactement pareil. C'est pour ça qu'on appelle ça la vieille Europe. Les besoins en termes d'hébergement, et je ne sais pas que l'hébergement, c'est aussi le soin.
Le soin, la santé,
Vous allez vieillir, plus vous aurez besoin d'être hébergé à un moment donné dans un parcours d'hébergement, mais aussi, vous aurez besoin de vous soigner. Vous consommez de plus en plus de soins, et c'est normal. Et donc, on a besoin de cliniques, on a besoin d'établissements spécialisés pour faire ce parcours de soins. Et l'Europe, c'est exactement pareil. Notre fonds, on est sur 9 pays. Pourquoi on est sur 9 pays ? Parce qu'on a bien compris dès le début, il y a 10 ans, qu'en réalité, ce n'était pas un problème franco-français.
Ouais.
C'est un problème européen. Et vous avez des pays qui sont plus en avance que d'autres. Mmh. On a d'abord investi en Allemagne parce qu'ils étaient, entre guillemets, c'était le pays le plus vieux d'Europe. Donc, les besoins avaient déjà été intégrés. Donc, il y avait déjà des actifs. Et aujourd'hui, on investit un peu plus dans les pays du Sud, l'Italie, l'Espagne, parce que...
Qui, petit à petit, se retrouvent confrontés aux mêmes problématiques.
Aux mêmes problématiques.
Voilà. Mais du coup, il y a aussi un intérêt, vous me voyez venir, il y a aussi un intérêt financier à aller investir aussi à l'échelle de l'Europe. Je dis ça à celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et qui seraient tentés d'investir dans ces véhicules type SCPI, investir dans des SCPI européennes sur la santé, c'est aussi fiscalement plus intéressant.
Alors, c'est fiscalement plus intéressant, bien évidemment, parce qu'en réalité, tout ce qui est...
Oui, je suis obligée de le dire.
Mais allez-y, 70% de notre patrimoine immobilier sur Pierre Valsanté est en Europe. Et donc, notre investisseur, en réalité, il ne paye pas de l'impôt sur les 70% de revenus et il ne paye pas de prélèvements sociaux.
Donc, je suis une coquine, mais il faut que je le dise.
C'est un avantage.
Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir en France.
Non, 30% de notre patrimoine est en France. Et après, on a créé une deuxième SCPI où on a voulu élargir, parce qu'on ne va pas aller qu'en Europe, on va aller aussi en Amérique du Nord.
Aux États-Unis. États-Unis, au Canada.
Au Canada, on a commencé avec Real Horizon Santé. On a créé cette VCPI pour en fait aller sur un spectre plus large, c'est-à-dire le soin, ce que vous avez dit tout à l'heure, et la zone géographique. Donc, on a commencé au Canada, on ira aux États-Unis, parce que les problématiques sont mondiales.
Mondiales, mais évidemment. Bon, il nous reste que deux minutes, parce que le temps passe vite, c'est horrible.
J'ai peut-être une chose à rajouter quand même. On a longtemps eu l'impression qu'on avait une exception française. C'est fini. Et je pense qu'il faut avoir ça en tête du point de vue démographique. C'est fini.
Ah, mais ça, j'en suis convaincue. Mais du coup, pour conclure, parce qu'il nous reste moins de deux minutes, du coup, désormais, j'appelle mon réalisateur en régie en lui disant « Laisse-moi un peu de temps. » Quand même, on n'a pas parlé des étudiants et on n'a pas parlé des jeunes. Et donc, je voudrais que d'un mot, vous puissiez me dire, est-ce que du coup, les seniors versus les jeunes en termes de stratégie d'investissement, je choisis quoi aujourd'hui ? Parce qu'il y a des résidences aussi adaptées aux jeunes aujourd'hui.
Alors, là encore, juste quelques chiffres et puis je pense que David aura envie de réagir, mais moi aussi. Aujourd'hui, on a un vrai déficit de résidences étudiantes.
Ouais.
Très clair. Il y a une place de résidence étudiante pour 8 étudiants. Donc, on est vraiment, et on est en dessous de la moyenne européenne. Mais, et c'est là que la démographie nous rattrape, attention, entre 2032 et 2042, si on ne fait pas plus d'enfants, on a une baisse de 20% des étudiants français. Et ce ne sera pas le volant d'étudiants internationaux qui comblera le trou. Donc, attention, je pense qu'il faut penser les résidences étudiantes comme des actifs qui peuvent être transformés, réversibles.
Mais comme tout l'immobilier, j'ai envie de dire aujourd'hui.
Bien sûr.
C'est à peu près l'idée, David, un dernier mot.
Moi, je pense que dans l'immobilier, il faut regarder, si vous voulez, l'utilité sur le long terme. C'est ça.
C'est ça.
Et après, regarder. Et la démographie, on le sait, mais on ne l'a pas suffisamment regardé et on ne l'a pas suffisamment transformé en besoin et en se dire, mais voilà, il faut plutôt construire de l'hébergement pour personnes âgées et puis des résidences étudiantes, mais pas en construire trop.
Ben oui.
Et on ne doit pas se retrouver dans des déficits abyssaux.
Oui, parce qu'on va avoir le mur, on va se le prendre plus tard, du coup. Mmh. Ben, c'est ça le sujet. Mmh. Et en vrai, si je boucle la boucle, le sujet, c'est la réversibilité de notre immobilier.
Exactement.
Lui ne bouge pas, mais nous, on doit pouvoir le modifier en fonction de nos besoins parce qu'eux, ils évoluent au fur et à mesure des années. Merci à tous les deux, c'est terminé, ça aurait pu durer encore plus longtemps. Comme chaque jour dans les experts de l'IMO, Christian de Kerangal, directeur général de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, et David Fink, le directeur général de Real, qui était avec nous aujourd'hui dans les experts de l'IMO sur BFM Business. Petite absence, les experts de l'IMO qui reviennent demain à l'antenne.
Super.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.